Je vous invite à faire une lecture avec moi si vous avez une Bible ou tout du moins. Vous pourrez écouter en tous les cas ce qu'il est dit. Dans la Bible, on trouve énormément de paroles, ça ne vous étonnera pas. On trouve également des paroles de foi, mais ça ne vous étonnera pas non plus forcément. Et puis on trouve des paroles plutôt surprenantes. Certains auraient dit... Monsieur Lapalisse aurait pu dire cela. Et pourtant, ça sort de la Bible. Dans le livre du Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, livre du Deutéronome au chapitre 30, il y a un verset, la deuxième partie d'un verset, qui nous intéresse, et nous le lirons tout en entier, bien évidemment. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome, chapitre 30 et verset 19. Ce sont les dernières paroles de Moïse, les dernières recommandations qui sont aussi des paroles de bénédiction ou tout du moins d'encouragement, d'avertissement aussi. Mais là, il dit quelque chose d'assez incroyable. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Afin que tu vives. Ça paraît pas logique? Monsieur Lapalisse aurait pas dit mieux. Hein, c'est logique. Choisis la vie et tu vivras. Il est dit par ailleurs, juste en dessous, si tu choisis la mort, il se passera quoi à votre avis? Tu mourras. Ça paraît tellement clair. Ça paraît tellement simple. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que ça paraît trop simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ça paraît trop simple. S'il suffisait dans la vie de choisir pour être exaucé, mais dites-moi, il n'y aurait pas de guerre. Hein. J'ai connu rarement des personnes qui ont choisi la guerre, on choisit plutôt la paix. Hein. Il y aurait certainement beaucoup moins de violence, beaucoup moins de pleurs, parce que les gens ne veulent pas pleurer, les gens ne veulent pas la violence, surtout pas la subir, bien évidemment. Et puis j'imagine qu'il n'y aurait plus de malades. Tu serais au chômage, Vanessa. Eh oui, plus personne à soigner, on n'a plus besoin de docteurs, on n'a plus besoin d'infirmiers, d'infirmières, d'hôpitaux, etc. Il n'y a plus de malades. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de ne pas être malade. Mais ce n'est pas si simple que ça. Hein. Tu auras encore du boulot. Hein. Ce n'est pas si simple que ça. Hier, nous étions réunis à Aix-en-Provence, il y avait un rassemblement de jeunes, et je retrouvais un monsieur, notamment ses enfants, et des jeunes gens qui avaient grandi. Et je discutais avec l'une d'entre elles, et donc elle fait des études de pharmacie. Des études de pharmacie, elle est en deuxième année, il faut en faire 6 d'années. Et en se quittant, je lui dis, j'espère que tu réussiras et que ça marchera pour toi. Et en plaisantant, évidemment, en plaisantant, je lui ai dit, j'ai hâte d'être malade pour aller prendre des médicaments dans ta pharmacie. Elle m'a dit, non, surtout pas, non, il ne faut pas être malade. Qui veut être malade? Personne, évidemment, personne. Ça tombe sous le sens. S'il suffisait de choisir pour être exaucé, je pense qu'aucun d'entre nous ne serait stressé. Difficile cet après-midi. Ne serait stressé. Personne ne serait saisi d'angoisse, étant obligé d'avoir recours à des anxiolytiques ou que sais-je. Non, tout le monde serait paisible. La vie serait belle, finalement. La vie serait belle. Il y a... Un film qui est sorti il y a des années qui portait ce titre « La vie est belle ». Mais quand vous connaissez le film, vous savez que ça ne racontait pas une histoire très belle. La vie est belle, tout va bien, il n'y a pas de problème. J'ai demandé et puis j'ai été exaucé. Il a suffi que je choisisse. Mais évidemment, j'insiste là-dessus, ce n'est pas si simple que cela. Parce que le vrai choix, dans le fond, c'est qui devons-nous suivre. Le vrai choix, c'est ça. Parce que dans la vie, on fait des choix et nos choix nous amènent souvent à suivre une direction. Celle-ci parce que je la trouve meilleure que celle-là, telle direction, parce que ça me paraît assez facile, assez clair, tout semble bien limpide, alors ça m'intéresse. On suit quelqu'un, on suit quelque chose, on suit une idée, on suit peut-être même un principe, que sais-je. Le vrai choix, c'est de se poser la question, mais qui devons-nous écouter? Parce qu'il y a des gens qui sont intéressants, il y en a d'autres, ils font les intéressants, il y en a d'autres, ils vous disent qu'ils sont intéressants, mais dans le fond, ils ne le sont pas vraiment. Alors, qui il faut écouter? C'est pas si simple que cela, finalement, de choisir. Et s'il fallait encore poser une dernière question, à qui vous voulez faire confiance, vous, dans le monde d'aujourd'hui? Pas si simple, ça aussi. Hein. On s'est fait rouler combien de fois? Vous avez compté le nombre de fois où vous êtes fait avoir? Je pense qu'on a oublié le nombre. Hein. On s'est tous fait rouler une fois, 10 fois, 100 fois, parce que ben, c'est comme ça. Certains savent le dire, savent vous enrober la chose, savent parler, savent expliquer. Et puis d'autres fois, on était persuadés, on était convaincus. Ça, c'était tellement évident, et puis on s'est fait avoir. Donc, ce n'est pas évident de faire confiance. Choisir, dans le fond, ben, ce n'est pas si simple. Et quand Dieu dit « Choisis la vie et tu vivras », je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction, vie égale bénédiction, mort égale malédiction. Je mets tout cela devant toi. Tu n'as qu'à, en somme, bien choisir. C'est ce qui fera la différence. Tu n'as qu'à bien choisir. Et j'aimerais, cet après-midi, si c'est possible, vous amener au moins à réfléchir un instant et comprendre qu'il existe des paroles de mort qui peuvent et qui entraîneront la mort, certainement, qui peuvent entraîner beaucoup de complications dans la vie. Des paroles de mort qui, quelquefois même, précipitent la mort. On a connu des personnes, je dis on a connu, parce que malheureusement, elles ne sont plus de ce monde. Et j'en ai connu quelques-unes de ces personnes-là, qui vivaient dans une détresse terrible. Mais alors, une détresse noire, il n'y avait pas de soleil dans leur vie, il n'y avait pas de ciel bleu. C'était gris, c'était sombre, c'était épouvantable. Et en discutant avec ces personnes, il n'y avait rien de positif qui sortait de leur bouche et finalement de leur cœur. Et puis en grattant un petit peu, on s'apercevait que ces gens-là avaient entendu tellement de paroles blessantes, tellement de paroles de mort, tellement de paroles accusatrices, de culpabilité, que ces gens-là ont fini par préférer mourir que vivre avec cela. Et les paroles qui engendrent la mort, et les paroles qui suscitent la mort. Mais je crois de la même manière qu'il peut y avoir des paroles qui amèneraient la vie. S'il y a des paroles qui engendrent la mort, il doit y avoir des paroles qui génèrent la vie, qui donnent du courage, qui donnent de l'espoir, qui donnent raison d'espérer encore. Et je suis persuadé qu'il en existe et qu'il en existe beaucoup. Alors, dans une histoire du Nouveau Testament, on va revenir sur quelque chose de plus contemporain que ce que je viens de vous lire. Mais c'est, me semble-t-il, on passe de la théorie à la pratique. Vous allez voir un exemple très très pratique de ce que je viens de vous dire. On va lire un texte qui se trouve dans un évangile, quelques bouts d'un texte dans un évangile, l'évangile de Marc au chapitre 5. C'est l'histoire d'une rencontre. Un homme va aller à la rencontre de Jésus, et en allant à la rencontre de Jésus, il va apporter son problème, il va apporter ses difficultés, il va apporter ses douleurs, ses peines. Et vous allez voir de quelle manière ce qui aurait pu tourner à une tragédie épouvantable va se renverser et va devenir une bénédiction extraordinaire. L'Écriture nous dit dans l'évangile de Marc, donc au chapitre 5, et dans ce texte vous avez les deux, paroles de mort, paroles de vie, qui d'ailleurs se succéderont, se suivront l'une derrière l'autre. Pas besoin d'attendre longtemps, quelquefois avant d'entendre une parole qui vienne détricoter ce que vous avez essayé de fabriquer et qui viendra plutôt encourager votre cœur troublé. Donc Marc chapitre 5, verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière « Ma petite fille est à l'extrémité, elle est en train de mourir, c'est ce que ça signifie. Elle est en train de mourir, viens, prie pour elle, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et puis on va faire un bond au verset 35, et sachez qu'entre le verset que l'on vient de lire, c'est-à-dire le verset 24 et le verset 35, il y a une autre personne qui vient arrêter Jésus dans sa marche, donc dans son chemin pour aller dans la maison de cet homme. Et cette femme avait aussi un problème, avait aussi une difficulté. Jésus va s'arrêter, Jésus va prendre du temps avec cette femme, Jésus va apporter la guérison à cette femme, la guérison qu'elle attendait. Et puis on reprend le cours de notre histoire. Comme il parlait encore avec cette femme, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, parole de mort, pourquoi importuner le davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, parole de vie, ne crains pas, continue de croire. Amen. Ne crains pas, continue de croire. On va arrêter là l'histoire pour l'instant, et puis on continuera tout à l'heure. Que s'est-il passé, le problème? Le problème, y a-t-il d'ailleurs quelque chose qui puisse être plus terrible que cela? J'en doute fort. Personne, à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a encore réussi à vaincre la mort. On retarde l'échéance, on retarde la mort, on essaie de s'en prémunir, on essaie de se préserver, on peut le faire de quantité de manières différentes, façon de vivre, qualité de vie, selon ce que l'on mange, etc. On peut faire des tas de choses pour améliorer sa vie et certainement sa santé. Le problème, c'est que quand vient la mort, et quand vous vous retrouvez sur un lit de mort et que le diagnostic tombe et on vous dit il n'y en a que pour quelques heures, il n'y en a que pour quelques jours, et que finalement vous savez très bien que ces gens-là ont raison parce qu'ils ne se trompent guère, eh bien c'est difficile de résister à l'épouvante de la mort. On y sera tous certainement confrontés un jour, si Dieu tarde, puisqu'il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, mais s'il devait tarder, peut-être qu'un jour nous passerons par la mort aussi. Et tous ceux qui sont autour de nous appréhenderont ce moment-là. Parce que celui qui s'en va, c'est, comme on le dit quelquefois, pas le plus malheureux, c'est ceux qui restent qui sont les plus malheureux, évidemment. Parce qu'il y a l'absence, parce qu'il y a un amour déchiré, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a une douleur. Et ça, c'est quelque chose de terrible. La mort a toujours suscité l'effroi et l'épouvante. C'est ainsi, et j'essaie de m'imaginer, mais j'avoue que je peux guère me mettre à la place de ces gens-là, mais j'essaie d'imaginer ces gens condamnés à mort et à qui on a dit « c'est votre dernier jour, ce sont vos dernières 24 heures ». J'essaie d'imaginer les heures qui s'égrènent et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. J'avoue que j'ai du mal à comprendre tout ce qui doit se passer dans leur tête, et je ne cherche pas à comprendre d'ailleurs parce que c'est complètement impossible, mais j'imagine, si la chose m'arrivait à moi, j'imagine 3 heures, 2 heures, surtout si l'on vous dit de quelle manière vous allez mourir, et peut-être pas de la façon la plus radicale, la plus directe possible, mais imaginez souffrance, imaginez torture, etc. C'est épouvantable. L'idée de la mort est quelque chose de complètement épouvantable. Il y a plusieurs textes qui nous ramènent à cette réalité-là. Un homme, David, c'est un roi de l'Ancien Testament, un roi d'Israël, dira ceci dans pratiquement les derniers mots qu'il prononcera. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 20 et 22 et au verset 5, il dira ceci. « Les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Je peux comprendre que quelqu'un de peureux crie et pousse des cris épouvantables face à la mort. Je peux comprendre. Quelqu'un de peureux sera terrorisé. Mais quelqu'un de vaillant, quelqu'un de fort, quelqu'un habitué au combat, quelqu'un qui a été confronté à la bataille et au risque de mourir bien souvent, me dire que même ces gens-là sont capables d'être épouvantés par la mort, c'est pour vous dire un peu l'intensité, c'est pour vous dire un petit peu ce qui peut se passer dans un cœur et dans une vie. Dans un psaume, là encore, cet homme, David, dira ceci, psaume 18 et verset 5, ça reprend un petit peu la même chose. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, le sépulcre m'avait entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Ne s'attendez pas à cela. On s'attend guère, là aussi, à partir un jour, et pourtant, certainement qu'il faut s'y préparer. Un autre homme qui, lui aussi, a malheureusement énormément souffert, il s'appelle Job, lui aussi est arrivé à un moment douloureux, et plusieurs de ses amis lui parleront, amis, si l'on peut dire ainsi. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, va s'adresser à Job en lui disant « Mais les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?» L'air de dire « Tu te plains, tu gémis, parce qu'il souffrait, il souffrait terriblement. Et voilà que quelqu'un lui dit, bon, pas tant de chiquet, hein. La mort, tu l'as pas affrontée en face quand même. Ça paraît hallucinant de réagir comme cela quand quelqu'un souffrirait. Vous imaginez, vous trouvez devant quelqu'un qui est dans la peine, dans la difficulté, et de lui dire, bon, tu vas pas te plaindre tout le temps quand même, il y a pire que toi. On ne peut pas se comparer, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un souffre, j'essaie de me mettre à la place de cet homme, Jaïrus, qui vient devant Jésus et qui se jette à terre et qui se jette à ses pieds en le suppliant et en disant « Mais s'il te plaît, viens dans ma maison, ma fille va mourir, s'il te plaît, fais quelque chose !» Il n'y a pas de priorité plus importante à ce moment-là. Il n'y a pas de moment plus grave que cet instant-là. Il n'y a pas de moment plus tragique que ce moment-là. Épouvante, désespoir, parce que incapacité, j'ai presque envie de dire tristesse, parce qu'on se sent finalement inconsolable. Si la mort devait frapper, mais comment vivrais-je ? Plusieurs de l'Église, vous connaissez la famille Soriano, et vous savez ce qui leur est arrivé, et on avait quelques nouvelles de Sabine ces derniers temps, mais que c'est dur. Mon fils me manque. Ben évidemment. Et ce sera comme ça. Et un trou a été fait dans un cœur. Et ça ne se bouge pas comme ça, un trou. On essaye de calmer la souffrance, mais que c'est dur. On ne peut pas imaginer, évidemment, et comprendre complètement ce que cet homme est en train de vivre, mais je pense qu'il donnerait cher, peut-être même tout ce qu'il a, pour que sa fille soit guérie. Vous ne croyez pas ? Mon empire, pour quelques heures de plus, disait quelqu'un. Je donnerais, mais tout ce que j'ai, pour vivre 24 heures de plus. Et à la fin des 24 heures, certainement que l'envie lui reviendra de dire « Je voudrais payer encore pour 24 heures de plus. » Et puis, 48 heures sont passées, mais je paierai encore pour quelques heures encore. Personne veut goûter à cet effroi de la mort. Personne. Cet homme a un problème et personne ne peut résoudre son problème. En échange de la mort, s'il fallait payer pour ne pas mourir, mais si je vous posais la question, dites-moi, en échange de la mort, qu'avez-vous à offrir ? En fait, rien. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Quand la mort vient frapper à une porte, elle emporte l'individu, elle emporte l'être, et c'est terminé. D'ailleurs, certains ont pensé qu'être riche, c'était important, comme ça il se préserverait de bien des dommages. Mais avez-vous remarqué qu'en général, quand quelqu'un meurt et que le corbillard l'emmène au cimetière, il n'y a pas un fourgon de la Brinks derrière lui, hein. Il n'emmène pas ses trésors, hein. Ben non, on laisse tout, il n'y a pas de coffre-fort, on laisse tout. Alors s'enrichir pour la terre, pour partir un jour avec tristesse et avec douleur et en laissant les autres dans la douleur, on n'a pas grand-chose à offrir pour vaincre la mort et le diable ne se laissera pas acheter, vous l'imaginez bien. Par contre, et là, puisqu'on parle de Jésus dans cette histoire, j'aimerais vous dire, et j'y viendrai en terminant, en échange de sa propre mort, Jésus a offert quelque chose. Jésus a offert quelque chose. J'en viens maintenant à l'échéance, la deuxième partie du texte. Alors que cet homme vient crier sa douleur devant Jésus, Jésus dit, « Je te suis, allez, on va à la maison. Montre-moi ta maison, viens, je viens vers toi et on priera pour ta fille. Et fais-moi confiance. » Ils y vont. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a eu des empêchements, il y a eu des contraintes, ça n'a pas été aussi rapide. Ben, finalement, il n'y a pas que Jaïrus sur la terre. Il n'y avait pas que lui, il n'y avait pas que sa fille. Il y avait aussi cette femme. Bon, il est question d'une femme qui va interrompre le cortège. Elle était malade depuis 12 ans. D'ailleurs, c'est assez curieux cette analogie. Une petite fille de 12 ans est en train de mourir et elle souffre depuis 12 ans. Méditez là-dessus. Et puis finalement, cette femme, tout doucement, discrètement, elle cherche la guérison et puis elle va être guérie. Et Jésus s'arrête, une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Et tout le monde dit, mais tu peux pas dire ça. La foule te presse, imaginez un mouvement de foule et vous allez dire, ne me touchez pas, mais c'est pas possible. Pressé de toutes parts. Mais à un moment donné, une force est sortie de lui. Parce que cette femme a cru que toucher le bord du vêtement de Jésus suffirait à la guérir. Une force est sortie de Jésus et il l'a senti, alors il s'arrête et il dit « Qui m'a touché ?» Et puis ça prendra un certain temps pour que cette femme vienne devant Jésus, explique son histoire, et que Jésus l'encourage et que Jésus la réconforte. Vous imaginez, Jaïrus est derrière, hein ? Oui, il est tout devant, il est en train de se dire, le temps est compté. Allez, allez, on se presse, s'il vous plaît. Il a dû trépigner d'impatience, certainement. Peut-être même un petit peu agacé en disant, bon, elle est guérie, c'est bon. Il y en a d'autres qui sont en train de mourir. Ma fille est en train de mourir. Sauf que Jésus a pris le temps. En général, on aime bien que les gens prennent du temps pour nous. Non ? Vous n'aimez pas ça, vous ? Ben oui, qu'ils s'intéressent, qu'ils prennent soin de nous écouter, qu'ils aient une oreille attentive, etc. Par contre, quand on est à la banque, supermarché, quelque part, et que devant la personne raconte sa vie, alors que ça n'a plus rien à voir aux renseignements qu'elle demandait, et vous, vous êtes derrière et vous dites, bon, c'est bon, elle t'a répondu, tu ne veux pas laisser la place, là, ça nous agace tout d'un coup. Hein. Là, ça nous agace. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls, ils ont besoin de parler. Hein. Même à la poste, même à la banque ou ailleurs. Et là, et ils font le tour de la terre et vous dites, non, non, c'est pas dans l'histoire, ça, il faut qu'elle s'en aille, cette personne-là. Là, ça nous agace, parce que bon, que Jésus prenne du temps pour Jaïrus, c'est bien. Que Jésus prenne du temps pour cette femme, c'est bien aussi. Oui, c'était bien pour tout le monde. Maintenant, devant l'urgence, Jaïrus aurait pu lui faire des signes de loin en disant... Il faut se dépêcher. Ouais, il aurait pu faire cela. Jésus, tranquille. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quelque chose qui nous court derrière, ça s'appelle le temps. Et le temps nous rattrape, un jour ou l'autre. Et ceci nous explique une autre chose. C'est que Jésus se moque du temps qui passe. S'en moque. Parce que le temps n'a pas d'incidence sur ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Vous entendez ? Le temps qui tourne, la montre qui tourne, n'aura jamais d'incidence sur cette parole qui est miraculeuse et divine. Ce que Jésus a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce que Jésus fera aujourd'hui, il est capable de le poursuivre demain, et dans 10 ans, et dans 100 ans, et dans 1000 ans, s'il le fallait. Il est capable. Le temps n'a aucune incidence. Le fait est qu'on reprend la route, et en fait, on ne la reprend pas beaucoup, la route. Vous souvenez du texte ? On ne la reprend pas beaucoup. Hein. Parce qu'il nous est dit que il était encore en train de parler, et certainement tiré par la manche, on peut l'imaginer, par Jaïrus. Et puis voilà que surviennent de chez le chef de la synagogue des personnes pour lui dire « C'est fini, ta fille est morte. C'est fini, ta fille est morte. » Là encore, essayons de nous mettre à la place de Jaïrus, l'échéance, parole de mort. C'est fini, c'est trop tard, vous arrivez trop tard, c'est terminé. Combien de fois vous vous êtes dit, mais je suis arrivé un quart d'heure trop tôt, ça a été mon malheur. Je suis arrivé 10 minutes trop tard, ça a été mon malheur. Combien de fois vous vous êtes dit, ça s'est joué à rien. C'est joué à rien. Quelques secondes, quelques minutes. La vie est faite de minutes et de secondes qui s'agglutinent les unes derrière les autres. Ça fait des heures, ça fait des années, ça fait une vie. C'est comme ça. On ne peut rien y faire à cela. Le truc... Et la chose la plus terrible, évidemment, c'est que comme une vérité scellée dans le marbre, quand la vie s'en va, la vie s'en va. Quand quelqu'un a arrêté de respirer, il est mort, par quelques exceptions, où des gens sont revenus à la vie 2 jours après, mais c'est quand même assez exceptionnel. Quand un médecin constate la mort, la personne est réellement morte. Et là, c'est fini. Là, c'est terminé, l'histoire est terminée, vous tournez la page, vous fermez le bouquin, c'est terminé, il n'y aura plus d'histoire, la personne est morte. On dit à Jaïrus, c'est fini, ta fille est morte. Ça, c'est l'échéance. Et la parole de mort vient tout de suite derrière. C'est plus la peine d'embêter Jésus. Hein. Tant qu'elle était vivante, bon, tu voulais qu'il vienne, il fallait qu'il vienne, d'accord. Maintenant, elle est morte, c'est fini, laisse-le s'occuper des vivants. Laisse-le s'occuper de ceux qui sont encore en vie, peut-être qu'ils vont mourir bientôt. Alors, donne une chance à quelqu'un d'autre. Parole de mort, parole de mort. Comme la fin de l'histoire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire aussi. Au fond, cet homme avait-il un recours quand sa fille était malade ? Visiblement pas. Et d'ailleurs, vous avez plein d'exemples dans la Bible où des gens ont été malades, ont consulté, ont fait tout ce qu'il fallait pour aller mieux, et puis ça ne va pas forcément mieux. C'est comme ça, on n'a pas remède à tout, malheureusement. Au fond, que pouvait-il espérer encore ? Même quand elle était sur le point de mourir, On a l'impression qu'il n'espérait qu'une chose, un miracle dans le fond. Un miracle pour qu'elle revienne, pour qu'elle fasse marche arrière, pour que son corps revienne du côté de la vie. Il faut un miracle, à un moment donné, il faut un miracle. Et ce miracle, il l'espérait bien. Cet homme a cru l'impossible, il a voulu espérer, et il est en route vers peut-être ce que l'on pourrait appeler l'acte le plus fou de son existence. Ouais. Ma fille va être délivrée, ma fille va guérir, ma fille va aller bien, ma fille va aller mieux. Encore fallait-il arriver à temps. Vous avez nourri des espoirs en disant « ça va marcher, je suis sûr que ça va marcher ». Encore faut-il arriver à temps. Encore faut-il arriver à temps. Il y a des personnes qui ont raté le bateau. Et vous savez de combien ils ont raté le bateau ? De ça. Le bateau était en train de partir, ils ont couru, ils ont sauté. Ils ont atterri dans l'eau. Il leur manquait ça pour tomber sur le bateau. C'est arrivé, hein ? C'est arrivé, pas des gros bateaux évidemment, mais quelquefois il ne nous manque pas grand-chose pour arriver. Mais si vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé. Certains vous diront, bon, ce n'était pas la peine de partir. Non, il fallait tenter le coup. Sauf que là, il a bien tenté, mais c'est trop tard, j'avais eu ce dommage. Tu as bien tenté. Ce serait terrible de se confier dans un Dieu qui nous dit, écoute, moi je suis le Dieu de la performance, je peux tout faire. Mais j'attends aussi de ceux qui veulent croire en moi de la performance. Alors on va étalonner, on va faire des défis. Et si tu es capable d'arriver à temps, si tu es capable de faire ce qu'il faut, si tu es capable d'arriver jusque-là, tu seras exaucé. Si tu t'arrêtes avant, tant pis pour toi, je ne suis pas le Dieu des médiocres. Ça, ce serait dur à encaisser. Ce serait dur. En tous les cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible et ce n'est pas le Dieu dont je voudrais vous parler cet après-midi, certainement pas. Cet homme... Il aurait dû arriver à temps, peut-être plus tôt du temps de Jésus, ou en tous les cas, qu'il ne croise pas l'histoire de cette femme, qu'il ne soit pas ralenti. Le fait est que c'est terminé, c'est trop tard, c'est fini maintenant. Et puis Jésus entend cette parole. Je pense que Jairus l'a entendu aussi. Jésus entend cette parole et écoutez bien ce qu'il va dire. Et avec Jésus, avec Dieu, entendez bien, c'est à prendre ou à laisser. Je reviens à ce que disait Moïse. Je mets devant toi la vie et la mort, c'est à toi de choisir. Je mets devant toi la vie et la mort. Tu prends ou tu ne prends pas. C'est à prendre ou à laisser. Tu choisis la vie, tu vivras. Tu choisis la mort, tu mourras. Tu choisis la vie, c'est la bénédiction. Tu choisis la mort, c'est la malédiction. C'est à prendre ou à laisser. Et finalement, à ce moment-là, le texte dit que Jésus, sans tenir compte, de ce qui vient d'être dit, raconte et dit à cet homme, à ce papa, « Ne crains point », dans vos Bibles il est écrit « crois seulement », mais la traduction plus littérale sous-tend « continue de croire ». Tu as cru quand tu es venu me chercher, tu as cru quand je t'ai suivi, certainement davantage, et tu t'es impatienté parce que ça prenait du temps, et maintenant qu'on te dit « c'est fichu, c'est mort, c'est terminé », je te demande de continuer de croire. Et je vous demande cet après-midi de continuer de croire. Peut-être n'avez-vous jamais cru, peut-être avez-vous arrêté de croire à cause de la vie, à cause des difficultés, à cause des douleurs, à cause des problèmes, et qui n'en a pas. Cet après-midi, je vous encourage et je vous dis, mon ami, continue de croire. Continuez de croire, ne vous arrêtez pas. Cet homme aurait pu partir en crise de nerfs, il aurait pu se mettre à hurler, il aurait pu courir dans sa maison pour se jeter sur ce lit, serrer le corps qui certainement était encore chaud de sa fille et pleurer à chaudes larmes en disant « c'est fini » et passer devant ses yeux ses souvenirs. Il aurait pu faire cela, mais avant qu'il ne bascule dans l'effroi, dans l'épouvante de la mort. Dans l'effroi de l'idée de la mort, Jésus l'interpelle. Et Jésus lui dit, Jairus, continue de croire. Êtes-vous capable ? Parce que là, ça a été un combat contre l'incrédulité, contre, dans la propre maison d'ailleurs, les cris, les pleurs, etc. Êtes-vous capable de ne pas tenir compte de ce que vous voyez ? De ne pas tenir compte de ce que vous entendez ? Êtes-vous capable de ne pas tenir compte de ce que vous ressentez ? Jésus, sans tenir compte de ce qui vient d'être dit, sans tenir compte du ressenti que ça produit, sans tenir compte de ce qui est en train de se passer dans un cœur et dans le cœur de Jaïrus, êtes-vous capable, vous, de réagir quand vous êtes absorbé, débordé par la difficulté? Êtes-vous capable d'écouter ou de prêter davantage attention à quelqu'un qui vous dirait l'inverse de ce que vous voyez, l'inverse de ce que vous entendez, l'inverse de ce que vous ressentez? Jésus est en train de dire l'inverse à cet homme de ce que ses amis viennent de lui raconter. Ta fille est morte, c'est fini. Et Jésus est en train de lui dire, non, c'est pas fini, continue de croire. Êtes-vous capable d'écouter cette voix-là? Ça, c'est une parole de vie. Êtes-vous capable de l'écouter? Êtes-vous capable de l'entendre au moins? Êtes-vous capable d'y prêter attention? Êtes-vous capable de vous arrêter sur ces paroles? Êtes-vous capable? Êtes-vous capable? Pas évident, pas évident. Je reviens à mon texte. Ne crains pas, continue de croire, verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Rien d'anormal, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se faisait. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jacques et Jean. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement à cause de ce miracle. Et il ordonna que l'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Qu'est-ce qu'il a fallu faire en arrivant dans cette maison? Se battre, combattre l'incrédulité, l'angoisse, la colère. Pourquoi elle est morte? Pourquoi on perd une enfant? Pourquoi une jeune vie est fauchée de cette manière-là? Il a fallu se battre contre ces cris que l'on entendait, ces pleurs qui étaient là. Et quand Jésus essaie de calmer tout le monde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand Jésus dit, on se calme, elle n'est pas morte, elle dort. Tout le monde sait qu'elle est morte et qu'elle ne dort pas. Ça fait la différence quand même. Et il voudrait essayer de calmer ces gens-là pour leur dire, j'ai un message de vie à vous donner, j'ai une parole encourageante à vous dire, j'ai quelque chose qui va amener de la joie dans cette maison. Mais on se moque de lui. Je ne suis pas loin de penser que quelqu'un aurait pu s'énerver en 3 secondes et vouloir lui sauter dessus pour lui casser la figure. De quel droit te permets-tu de dire des choses comme ça ici? Quand on est dans la douleur, on n'entend plus rien. Quand on est dans la souffrance, qui nous calmera? Qui nous rassurera? Alors, qu'a fait Jésus? Ben, il a mis tout le monde dehors. Si vous voulez entendre une parole de vie, il faut mettre dehors de votre cœur l'incrédulité. Il faut mettre dehors de votre vie la colère. Il faut mettre au dehors de votre vie votre amertume. Il faut mettre dehors de votre vie ces choses-là. Jésus a mis tout le monde dehors. Il a gardé les parents de l'enfant. Il a gardé les disciples qui l'avaient accompagné. Et il a fait ce qu'il avait dit. Il a fait un miracle. Et il a ramené cet enfant à la vie. Oh, gloire à Dieu! Il y a eu une résurrection ce jour-là. Vous avez déjà vu des résurrections, vous? Franchement, vous en avez vu ou pas? Non? Ça n'arrive pas tous les jours. Ils ont vu une résurrection. Je vous disais tout à l'heure qu'en échange de la mort, on n'a rien à offrir, à part des pleurs, des cris, des moqueries, de l'amertume, de la tristesse, de l'angoisse, de la folie. On deviendrait fou selon ce que l'on vit. Eh bien, Jésus, en échange de sa propre vie, et comprenez par là de sa propre mort, a offert la vie à cet enfant et veut vous offrir la vie cet après-midi. Seul Jésus, le Fils de Dieu, est capable de faire cela. Cet après-midi, et je vais terminer, vous allez confronter une parole de mort et une parole de vie. C'est à vous de choisir. Soit vous repartez de ce lieu avec la parole de mort qui vous accompagne depuis trop longtemps, soit vous saisissez la parole de vie dont on vient de parler. Si vous saisissez la parole de vie, alors tout devient possible. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout devient possible. Jusqu'à une résurrection, tout devient possible. Je ne doute de rien en ce qui concerne la puissance de Dieu. Je peux douter de tout en ce qui me concerne, de tout en ce qui vous concerne, mais certainement pas en ce qui concerne Jésus, le Fils de Dieu. Alors il faut sortir et il faut mettre dehors tous ces gens-là, tous ces rebelles, tous ceux qui ne veulent pas, mais entendre la parole de Jésus, Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Jésus est prêt à vous donner du repos cet après-midi. Jésus est prêt à vous bénir. Jésus est prêt à vous accorder sa vie. Une vie spirituelle, une vie intense, une vie profonde. Comment cela sera-t-il possible? Je vous demande de regarder à la croix, pas celle-là, hein, mais une croix qui ressemblait sans doute à ça, mais qui était beaucoup plus grande, évidemment. À l'époque de Jésus, on crucifiait les malfaiteurs sur des croix. Et puis on les laissait exposer pendant des heures et des heures, une agonie, une torture épouvantable, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et s'ils n'étaient pas morts quand il était temps d'aller se coucher, on leur cassait les jambes, terminait le travail. Quand Jésus est venu, il est venu combattre le diable, Satan, qui n'avait de cesse d'emmener les gens dans la mort et la mort éternelle. Avec effroi et avec épouvante. Et Jésus est venu combattre cet ennemi redoutable, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, c'est ce que dit la Bible, c'est la mort. Et le prince, celui qui tient la mort dans ses mains, le diable, a déjà été vaincu. Quand Jésus meurt à la croix, il donne sa vie pour vous, pour moi, il donne sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour Jaïrus, pour ses angoisses. Il a donné sa vie pour cette femme atteinte de cette perte de sang depuis 12 ans et qui souffrait tellement. Il a donné sa vie pour la fille de Jaïrus, pour qu'elle revienne à la vie et qu'elle ait encore le bonheur de vivre. Il a donné sa vie pour que le malheur soit changé en recours, en secours, et que les échéances ne deviennent pas des évidences. Souvent, ce qui apparaît comme inéluctable sont pour nous des évidences. Ça ne peut pas être autrement. Mais moi, je vous dis que le message de la Bible vous propose d'autres évidences qui sont appuyées sur les promesses de Dieu. Cet après-midi, Jésus vous dit qu'il est mort, mais qu'il a vaincu la mort. C'est le seul qui, par lui-même, a été capable de revenir de la mort. Personne d'autre ne l'a fait. Et il a vaincu la mort, il vit pour l'éternité, il est au ciel. Et la Bible dit qu'il a vaincu la mort pour vous, pour que vous soyez délivrés, libéré, affranchi. Alors cet après-midi, choisis la vie, choisissez la vie et vous vivrez. C'est si simple, choisissez la vie. Ça a été dur pour Jésus, il l'a fait pour vous. Le vrai choix, c'est que vous avez devant vous quelqu'un que vous pouvez suivre, que vous pouvez écouter, à qui vous pouvez faire confiance, c'est cette personne, c'est Jésus-Christ. J'aimerais prier pendant quelques instants et vous inviter à la prière avec moi et vous demander, pendant ce temps de prière, de considérer votre vie, de considérer les choix que vous avez à faire, non pas ce que vous avez fait, puisque de toute façon on ne peut pas revenir en arrière, mais au moins regardez les choix qui sont devant vous. Et puis j'aimerais tellement que vous puissiez examiner cela et considérer que oui, il y a de belles choses, il y a de belles choses à voir dans la marche avec Dieu, dans la vie avec Dieu. Il est capable de vous bénir, il est capable d'intervenir en votre faveur. Merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta grâce. Tu connais les besoins qui sont réels, qui sont importants, les besoins de beaucoup. Beaucoup ont des besoins, beaucoup ont des peines, beaucoup ont des difficultés, beaucoup ont des souffrances, beaucoup ont des douleurs, beaucoup ont des difficultés dans leur existence. Je te supplie d'étendre ta main, je te supplie de te manifester et de te glorifier maintenant. S'il te plaît, agis, je t'en prie, au nom de Jésus. Tu connais celui ou celle qui est venu dans ce lieu avec un problème récurrent, ça ne s'améliore pas, ça ne s'arrange pas. Et toi, tu es celui qui libère, toi, tu es celui qui délivre. Il semble qu'il n'y ait pas d'évolution, il semble que les choses aillent plutôt dans un mauvais sens. Eh bien, je veux croire à la puissance de Dieu, je veux croire à l'autorité divine. Étends ta main sur celui qui est malheureux, étends ta main sur celui qui est dans la détresse, étends ta main sur celui qui est blessé, qui est meurtri, et glorifie ton nom maintenant. Que ton nom soit loué. Seigneur, agis, je t'en prie, et glorifie ton nom. Je veux prier maintenant pour vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, et je voudrais m'adresser à vous, alors qu'on est tous dans la prière, dans le recueillement. Peut-être que l'histoire de Jaïrus vous a parlé. En tous les cas, vous avez vu des similitudes avec certains parcours de vie que vous avez et que vous traversez actuellement. L'épouvante, l'effroi, l'angoisse, la tristesse, l'amertume, la colère. L'idée que l'on risque de devenir fou si ça ne s'arrête pas, si ça ne change pas, si ça ne s'améliore pas. Alors j'aimerais tant vous encourager à choisir la vie. Alors je vais vous encourager à faire ce pas de foi. Je vais vous encourager à décider. Je vais vous encourager à prendre une décision cet après-midi, faire un acte de foi là maintenant. Et je vais vous demander de choisir la vie. C'est tout simple. Choisissez la vie cet après-midi. Alors, vous qui avez un fardeau, une difficulté, qui voulez la clé pour sortir de votre marasme? Vous voulez la clé pour sortir de votre difficulté? On va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier en demandant à Dieu qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous encourage, qu'il vous accompagne. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il va vous bénir. Alors, je vous demanderai simplement de faire un acte de foi. C'est simple, hein. Un acte de foi, c'est très simple. C'est persévérer dans la foi qui est plus difficile, mais si vous faites un acte de foi cet après-midi, Dieu va vous encourager à persévérer et ça deviendra simple, vous verrez, ce ne sera pas difficile. Y a-t-il dans ce lieu des bien-aimés, des personnes qui ont des fardeaux, qui veulent voir leur vie changer? On reste tous les yeux fermés et on va prier pour vous. Je vous demanderai juste de faire cet acte de foi et de vous redresser, de vous lever à votre place, de rester là, debout devant votre chaise, comme si vous vouliez vous signaler devant Dieu, comme pour dire, Seigneur, je veux que ma vie change et je fais un premier geste, je me lève pour que ça change. Vous restez devant votre place, vous vous levez comme pour dire, pasteur, priez pour moi, église, priez pour moi, je veux que ma vie change, je veux qu'il se passe quelque chose pour moi, je veux que ma vie soit bouleversée, je veux que ma vie soit complètement transformée. Et on va prier et on va demander à Dieu qu'il vous bénisse. Vous qui avez besoin de sa grâce, faites le pas de la foi maintenant. Attendez-vous à Dieu, comptez sur sa grâce, même si vous avez toutes les raisons du monde. Et j'imagine Jaïrus, au moment où on lui a dit, c'est fini, n'importune plus Jésus. J'imagine tout ce qui lui est passé par la tête, tout ce qui a traversé son esprit. Mais Jésus est arrivé pour lui dire, crois encore, continue de croire. Et je voudrais vous dire cet après-midi, continuez de croire, levez-vous, attendez-vous à Dieu, croyez qu'il va agir maintenant, il va vous bénir, il va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, c'est le moment certainement de faire un acte de foi, attendez-vous à lui, levez-vous. Et je prie maintenant et je demande à Dieu grâce. Et l'Église avec moi va prier pour que Dieu vous bénisse et pour que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Alléluia. L'Église, on prie ensemble, on prie avec moi. Toute l'Église prie, on élève nos voix tous ensemble et on demande à Dieu sa grâce maintenant. Alléluia. C'est un combat, c'est une bataille, c'est une lutte, assurément, pour bannir l'incrédulité, pour chasser l'incrédulité. Ça ne se fait pas si facilement, c'est pas si évident que cela. Mais on va croire à la puissance de Dieu, on va croire que Dieu va agir maintenant. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce. Nous invoquons ton nom, parce que le nom de Jésus est tout-puissant. Nous invoquons l'Éternel parce que tu nous as dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je t'exaucerai et tu me glorifieras. » Je te demande d'étendre ta main. L'Église prie et nous te demandons tous ensemble d'étendre ta main sur ces bien-aimés, d'étendre ta main sur ces personnes qui sont debout devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, guéris-les de leurs maux, délivre-les de leurs peines, assure-leur la guérison, assure-leur la délivrance, apporte leur la paix, change le mal en bien, change leur détresse en espérance, sèche leurs larmes, apporte-leur la délivrance, apporte-leur ta paix, la paix de Jésus, la paix de Dieu qui surpasse tous nos malheurs, toutes nos difficultés. Donne-leur la délivrance, donne-leur du recours, mais montre-leur que tu es là et que tu vas les accompagner. Guéris le malade, guéris l'angoissé, délivre celui qui est apeuré, délivre celui qui n'a pas d'avenir. Donne-lui un avenir et de l'espérance. Donne-lui la paix. Donne-lui de la joie. Montre-lui que tout n'est pas fini. Montre-lui qu'il y a de l'espoir. Montre-lui qu'il y a encore des raisons d'espérer. Et donne-lui la paix. Donne-lui la paix. Donne-lui la paix. Tu disais toi-même, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais bien que ton repos vienne sur ces vies et que la mort de Jésus, sa résurrection, devienne acquise, quelque chose d'acquis pour celui qui est là debout devant toi. Tu donnes ta paix, tu donnes ta joie, tu donnes la liberté, tu donnes la délivrance. Et nous te remercions ensemble. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Merci de ta grâce, Seigneur. Amen.